Je disais, donc, comme ça s'est accéléré vers la fin, j'ai loupé une petite étape, c'est-à-dire que j'aurais voulu éventuellement que vous reveniez un peu sur la notion d'espace d'intéressement.
Ah, d'accord.
J'ai pas bien compris.
Alors, peut-être pour essayer de resituer un peu le concept hein, tel qu'il a été développé, notamment par Latour et Calon, ce sont des sociologues du laboratoire. Voilà. Et ils ont une manière sociologique de regarder la façon dont on diffuse ou ne diffuse pas des résultats de recherche et des innovations technologiques. Vous savez, comme moi, que beaucoup d'entreprises ont des cartons qui sont pleins d'innovations qui n'ont jamais vu le jour. Des automobiles, toutes sortes de choses, des métros à liaison immatérielle, des choses extrêmement sophistiquées qui seraient parfaitement viables. Sans parler des biotechnologies dont on sait qu'elles peuvent être tout à fait viables et intéressantes, mais à un moment donné, elles ne s'incarnent pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut créer un espace d'intéressement. C'est-à-dire qu'ils luttent, si vous voulez, contre l'idée, ils luttent contre la métaphore de la tache d'huile. C'est-à-dire qu'il y aurait une idée, un concept qui serait pertinent, et du coup, il va diffuser tout seul. Ben non, l'histoire des sciences et des techniques nous montre que ça ne marche pas comme ça. Il faut créer des réseaux d'intéressement. C'est-à-dire des réseaux dans lesquels plusieurs types d'acteurs qui peuvent être intéressés à la chose vont finir par tomber d'accord pour que cette innovation voie le jour. Alors, les acteurs habiles sont des acteurs qui sont capables de traduire dans le discours des autres ce qu'ils sont capables de dire eux-mêmes dans un autre type de discours. Un des cas que travaille Latour, c'est notamment l'œuvre de Pasteur, hein, qui a émis des théories assez révolutionnaires sur la façon de conserver les aliments, etc., etc., qui n'était pas jugé comme un vrai biologiste par les universitaires et qui a écrit des centaines de lettres à des brasseurs de bière, à des négociants de vin de Bordeaux, a réussi à créer un espace d'intéressement pour leur montrer en quoi ces découvertes scientifiques pouvaient les intéresser. Voilà, je dis ça de manière extrêmement rapide et ignorante, parce que je connais pas bien le détail du dossier, et je ne saurais pas bien vous pasteuriser tout ça, mais on peut regarder en effet que beaucoup de diffusions de ce genre-là sont passées par des espaces d'intéressement. Il y a un texte un peu rigolo qui a été fait par Calon, qui s'appelle « La domestication des coquilles Saint-Jacques dans la baie de Saint-Brieuc », dans laquelle il vous explique comment Pecten Maximus, qui s'étiolait en baie de Saint-Brieuc, un certain nombre de personnages de la CNEXO, je crois qu'il était le centre d'exploration des océans, ont décidé de réimplanter voilà, de manière artificielle, hein, en les forçant à se reproduire, et plus naturellement, les coquilles Saint-Jacques, en copiant ce qui avait été fait au Japon. Mais il a fallu négocier. Il a fallu négocier avec les marins pêcheurs qui voulaient s'y retrouver. Il a fallu négocier avec les autorités universitaires. Il a fallu négocier avec toutes sortes de choses, y compris, disent-ils, avec les coquilles Saint-Jacques, qui supportaient mal au début les étuis de nylon dans lesquels on les mettait et qui ont préféré des étuis en crin dans lesquels elles se reproduisaient beaucoup mieux. Donc voilà, espace d'intéressement. Voilà, parce que pour eux, il y a des réseaux d'acteurs humains, non humains, etc., etc. C'est une manière assez un peu iconoclaste de voir ce genre de choses, mais qui aujourd'hui s'est diffusé. Or, il me semble que quand un phénomène social perdure, alors même que les plus hautes autorités de l'État veulent l'interdire, je pense à l'interdiction des devoirs écrits à la maison en 1956, j'ai bien des devoirs écrits, et que ça dure quand même, c'est parce qu'il y a, de mon point de vue, un réseau d'intéressement qui existait déjà, qui continue de se construire et qui est plus fort que les arguments qui ont été des arguments de nature hein, avant 1956, qui étaient des arguments de caractère hygiénique. Pourquoi fait-on travailler des élèves aussi longtemps ? On les martyrise. Et qui étaient des arguments de caractère civique traditionnel. Si les élèves travaillent hors du milieu scolaire, ça devient injuste. Parce que précisément, le grand mérite de l'école républicaine, c'est de les soustraire aux influences locales. Donc si vous exportez le travail, vous allez recommencer les phénomènes d'inégalité. Or, ces arguments-là, d'une certaine manière, n'ont pas été entendus parce qu'il y a, des arguments plus forts, ou en tout cas des intérêts plus importants, qui sont ceux notamment de contrôler l'école. Hein, un parent qui a accès aux devoirs est un parent qui sait combien de devoirs on donne dans la classe, combien on en donne dans la classe parallèle, et qui peut faire pression sur l'enseignant parce qu'il n'a pas beaucoup de pression. Il ne rentre pas dans l'école en général. Mais là, par le biais de ce qui sort de l'école, il peut s'inscrire dans la boucle de régulation. sans parler de tout l'intérêt qu'ont pu trouver des organismes de caractère périscolaire pour se trouver des positions concernant leur véritable définition de l'enfant et de l'élève par rapport à une école qui les méconnaîtrait, qu'ont pu trouver le marché privé, Academia, etc. Parce que en effet, eux vont dire, voilà, l'important, prenez le métro, l'important c'est la motivation. Ils développent tout un truc autour de la motivation. Nous sommes motivés, nous allons motiver aux enfants et tout va réussir. On est dans des mythologies culturelles puissantes qui permettent de drainer et de surfer, je dirais, sur l'inquiétude des familles. Et je crois que l'espace d'intéressement est d'autant plus solide qu'aujourd'hui, ne pas réussir à l'école, c'est à peu près être certain de ne pas réussir. Donc, je ne sais pas si je concrétise la notion d'espace d'intéressement, mais il me semble que c'est un outil important, pertinent, c'était pour ne pas répéter intéressant, voilà, pour comprendre la survie de quelque chose qui ne donne satisfaction à personne, qui coûte très cher. Ça a été calculé en nombre de milliards d'euros par année, sans compter l'auto-prescription que font parfois les parents en achetant des cahiers de devoirs de vacances que personne ne leur demande. On est dans de l'auto-allumage qui traduit, je crois, très profondément l'inquiétude de la société. Les parents de milieu populaire, aujourd'hui, investissant aussi dans les cours privés. On voit les types de sacrifices qui sont consentis parce qu'on se méfie, on pense que l'école n'est plus capable. Il y a une espèce de certitude qui s'est accréditée aujourd'hui dans la société, c'est qu'on n'apprend plus à l'école, on apprend à l'extérieur. Ce qui me paraît assez extravagant, mais fait partie, je crois, de cette conviction profonde.
Alors, quand il y a des réseaux qui ont travaillé sur la question des devoirs à la maison et du travail personnel, c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus d'emblée dire les devoirs à la maison, c'est pas bien, il faut arrêter, quoi. Parce que ça ne marche pas. Et du coup, ce qui est intéressant, et ça rejoint ce que disait Patrick tout à l'heure, c'est comment on en fait un objet de travail, un objet de réflexion collectif, pour le faire mieux ou moins bien, ou en tout cas de le problématiser.
Oui, ben dans le même ordre d'idée, c'est vrai que du coup, on voit bien avec cette histoire de Calon et de la Tour, c'est qu'il ne suffit pas de dire, comme le fait tel ou tel lobby, les devoirs, c'est pas bien. Il ne suffit pas qu'on répète aux enseignants, il faut que vous arrêtiez de donner les devoirs à la maison, parce que quand on interroge des enseignants qui essayent vraiment d'aider, y compris les élèves de milieu populaire, à réussir, la première question qu'on pose aux enseignants, quand on leur dit, mais bon, qu'est-ce qui ne va pas réellement là pour toi dans le travail avec les élèves? Ce que les enseignants répondent très massivement, j'ai des preuves, je peux vous montrer pas mal de vidéos là-dessus, c'est il faut que les gamins arrivent à se mettre au boulot. Et donc, ce qui ne nous va pas, c'est comment... Enfin, on n'arrive pas à les mettre au boulot. Et du coup, qu'après la réponse qu'ils proposent, que les enseignants proposent en externalisant le travail, pour reprendre l'expression, soit pas ou pas très intéressante ou pas la meilleure, c'est une chose, mais le problème essentiel, c'est comment est-ce qu'on fait que les élèves se mettent au boulot. Et celui-là, enfin, je veux dire, il n'est pas de gauche ou de droite, quoi. Et la FCPE peut bien dire on interdit les devoirs à la maison. Elle renvoie aussi directement sur l'école en disant c'est de votre faute si vous n'y arrivez pas. Mais moi, ce que j'ai appris avec Rayou, c'est effectivement cette idée que quand l'école ne scolarisait que les meilleurs élèves des classes bourgeoises, début du XXe siècle, pour une heure de cours, il y avait 2 heures de devoirs. C'est bien ça, je crois, l'exemple que tu donnes. Et comment on voudrait qu'aujourd'hui, on fasse accéder aux élèves des milieux populaires la norme scolaire, l'exigence scolaire, c'est-à-dire celle du savoir et pas celle de la socialisation, sans qu'on pose de manière prioritaire, la question du travail des élèves. Je rejoins Stéphane et le travail très intéressant qu'il a fait dans son réseau. Je pense que du coup, ça, c'est vraiment un travail pour nous, qu'on soit enseignant, copsy, préfet des études, chef d'établissement, etc. C'est vraiment une question redoutable. Et il ne suffit pas de dire aux profs, vous n'avez qu'à vous démerder pour le faire dans l'heure de cours. Parce que de toute façon, ça ne tient pas.
Oui, Georges Combé, prof de philo UFM de Guadeloupe. Je crois que vous parlez de prof de devoir à la maison, mais il faut distinguer les élèves de l'école primaire et les élèves du secondaire. Et il y a une raison que vous n'avez pas évoquée, il me semble, et qui est bien analysée par Anne-Marie Chartier dans un texte où elle explique la différence entre le fonctionnement du primaire et le fonctionnement du secondaire. Parce que dans le fonctionnement du primaire, l'instit était censé faire travailler les élèves à l'école, et travailler à leur côté, n'est-ce pas ? Donc il y avait cette proximité, et évidemment, comme le travail était fait à l'école, il n'y avait pas nécessité de le prolonger à la maison. Tandis que le secondaire, où le prof professait justement, dans une distance marquée par l'estrade spatiale aussi avec les élèves, puisqu'il faisait un cours en quelque sorte, il professait, il enseignait, le devoir, vous l'avez bien précisé, le travail de l'élève consistait aussi à, d'une part, à prendre des notes et à travailler sur les notes par la suite qu'il avait prises. Ceci a été prolongé lorsqu'on a installé les centres de documentation et d'information dans les lycées, qui sont, et dans les collèges, dans le secondaire plutôt, qui justement permettent aux élèves des lycées, des collèges et lycées, de poursuivre le travail, les cours qu'ils ont pris au sein de la classe. Ce qui n'est pas la même chose dans le primaire. Il n'y a pas de CDI dans le primaire. Les BCD ne sont pas des centres de documentation, et d'ailleurs les élèves les fréquentent avec leur instit. Donc le problème qui est posé donc dans ces devoirs à la maison, c'est lié à ce que vous avez appelé la porosité de l'école, la pression de la société qui fait que justement on voit des pratiques du secondaire s'installer dans le primaire, et pour ma connaissance, en Guadeloupe, il existe déjà des cours privés où les élèves qui sont fréquentés par les élèves dès le CP, dès la fin de la maternelle, il y a des parents qui inscrivent leurs enfants dans ces cours, et c'est jusque à la fin de leur scolarité, on pourrait dire. Donc je crois qu'il faut faire cette distinction entre le travail dans le primaire, d'accord, qui donne lieu jusqu'à maintenant, d'après les textes, à des leçons qui peuvent être apprises par les élèves à la maison, une chanson, un petit paragraphe, qui exclut les devoirs écrits, et le secondaire qui, en quelque sorte, les intègre dans son fonctionnement. Le gros problème aussi, si on veut extrapoler cette question, c'est la manière dont le primaire rejoint le secondaire, les pratiques du primaire, les méthodes du primaire rejoignent en quelque sorte le secondaire, avec des travaux comme les TPE ou d'autres travaux qui mettent en proximité, en relation, par petits groupes, les élèves du secondaire avec les professeurs, et comment des pratiques du secondaire, comme la pratique des devoirs et des cours particuliers, gagnent depuis quelques années le primaire.
Oui, je crois que Patrick et vous mettez l'accent sur un paradoxe qui me paraît tout à fait important. C'est le fait que dans les dernières décennies, les curriculums scolaires sont des curriculums dans lesquels, dans l'université, sont descendus de plus en plus les postures de recherche, mais c'est assez normal parce que c'est l'université, mais que les postures universitaires ont commencé à gagner le second degré, hein, le rapport Bourdieu-Gros dans les années 80, c'était ça que ça disait à mon avis, que les postures du secondaire commencent à gagner le primaire, et qu'aujourd'hui la maternelle commence à être reconfigurée pour être une pré-primarisation, beaucoup plus pré-primarisée qu'elle ne l'était dans les années 70. Donc, pourquoi pas ? La question qui se pose, à mon avis, c'est comment retravaille-t-on ça, et comment ne voit-on pas le paradoxe qu'il y a à constater que d'un côté, il y a une secondarisation au sens, pas du secondaire, alors il y a une abstraction, voilà, une entrée de plus en plus importante des abstractions dans l'enseignement, et que dans le même temps, des élèves qui sont plus démunis que ne l'étaient les élites sociales du début du XXe siècle ou de la fin du XIXe, ont moins d'appui sur place que ne les avaient ces élites au moment où elles avaient des soutiens familiaux plus importants et où les contenus scolaires n'étaient pas aussi exigeants. C'est-à-dire que nous sommes, de mon point de vue, devant une espèce de chiasme, je ne sais pas comment il faut historique, dont je crois qu'il faudrait qu'on prenne davantage conscience, parce que ça tiendrait du miracle que cet ajustement se fasse de lui-même. Et c'est ce que j'appelais la métaphysique de l'exposition au savoir. C'est pas parce qu'on ouvre les structures aux élèves et à ces types de savoirs qu'ils apprennent. Il y a quand même un scandale de l'enseignement supérieur parmi d'autres, qui est des bacheliers professionnels sont aujourd'hui détenteurs d'un baccalauréat, qui est, comme vous le savez, à la fois la certification des études de second degré et le premier grade de l'enseignement supérieur, qui fait que théoriquement, les enseignants supérieurs sont présidents des jurys du baccalauréat. C'est pas rien, hein, symboliquement et historiquement. Quel est le taux de survie des détenteurs d'un baccalauréat professionnel à l'université? Il est, je crois, autour de 2%, quelque chose de ce genre-là. Donc, je crois qu'on arrive là devant une des pointes extrêmes du paradoxe de cette exposition au savoir. Nous voyons bien que les élèves qui s'y inscrivent vont s'abîmer, vont périr avec pertes et fracas, sauf cas de résurrection, d'appui, de motivation particulière, voilà, mais qui sont loin d'être généralement partagés, et qu'il y a l'organisation d'un échec. C'est-à-dire, c'est chronique d'un échec annoncé. On le sait de manière assez cynique, hein, et on sait aussi comment les filières qui sont au contraire plus médiatisantes, plus de proximité, comme les BTS ou les IUT, ont été progressivement colonisées par des catégories sociales pour lesquelles c'était pas destiné, mais qui leur servent de contournement de l'université de masse. Donc là, vous voyez, on n'est pas du tout dans des stratégies cognitives, on est dans des stratégies socialo-sociales, hein, qui pilotent l'ensemble du système et qui font que la question des apprentissages, de mon point de vue, est toujours regardée après, et en général quand ça marche pas. Pourquoi sur la question des devoirs et pour rebondir sur l'histoire de la FCPE, je crois qu'en effet, il ne faut pas prendre la question par le bout des devoirs, il faut prendre la question par le biais du travail des élèves. Qu'est-ce qui est nécessaire comme travail pour apprendre, à quel niveau? Ne pas mettre dans le même panier premier degré, deuxième degré, CM2, ECP, seconde et première, etc. Il faut regarder ce qui est nécessaire et à partir de là, et compte tenu des performances moyennes des élèves, se demander quel type de travail il leur faut, à quel moment il leur faut, en quelle quantité, etc. On procède pas du tout comme ça. Hein. Dans les entretiens que nous avons faits avec des profs de collège, on voyait bien qu'il n'y avait pas de concertation sur la nature des devoirs qui étaient donnés et sur le temps à consacrer aux devoirs. On s'est amusé au petit jeu auquel tout le monde peut s'amuser. Vous preniez les enseignants d'une classe, vous leur demandiez combien de temps chaque élève devait consacrer chaque soir au travail. Ils disaient pas beaucoup, pour moi une heure, hein, bon, ou quelque chose comme ça. Et vous aviez des journées de travail dont lui-même n'aurait pas voulu pour lui et ses enfants. Voilà. Donc ça, c'est un petit jeu assez bête et méchant, mais néanmoins très significatif de l'improvisation généralisée, hein, qui prévaut dans quelque chose qui me paraît central, parce qu'on apprend quand on travaille, et pas forcément quand l'enseignant fait la leçon. Ça veut pas dire qu'on apprend pas, mais ça suffit pas à l'apprentissage. Hein. Or, cette dissociation, cette voilà, bipolarisation des deux gestes de l'apprentissage, hein, en France est très très forte. Et de mon point de vue, une des raisons du piétinement de la démocratisation depuis le milieu des années 90 et qui est régulièrement enregistrée tient à ça, hein, tient à ce que nous n'avons pas su trouver des modalités pour faire entrer dans des savoirs toujours plus exigeants des élèves extrêmement démunis concernant les prérequis, hein, de cette forme scolaire très subtile, qui a des objectifs extrêmement ambitieux pour tous, mais qui ne sait pas forcément analyser le travail et analyser les réquisits du travail. Et en revanche, on a un petit jeu franco-français sur les devoirs, qui les fait, qui est légitime pour les faire, etc., etc. Je crois que le fond d'angoisse qui est là-dessous explique assez largement comment on n'arrive pas à dépasser ce niveau.